Je suis honoré d'être ici ce matin. Il se trouve que je travaille maintenant à Trois-Rivières dans une compagnie qui s'appelle STI. Et au centre-ville, donc je fais la route entre Princeville et ici chaque matin et chaque soir. J'ai commencé en janvier et chaque semaine, il y avait une tempête de neige. Donc la route a pris passablement plus qu'une heure. Je voulais, comme j'ai raconté au pasteur Benoît, moi je travaillais pour Hewlett-Packard avant, HP, pendant 12 ans. Et ça me permettait, je travaillais de chez moi pendant 7 ans, les dernières 7 années et demie, ce qui nous a permis de déménager à Princeville. Et ça me permettait aussi de faire beaucoup de ministères en dehors de mon travail, ou comme si j'allais en Europe, je pouvais continuer à travailler à distance, puis faire le ministère. J'ai fait plus que 1000 conférences, 17 débats à travers le monde. Et quand on m'a muté ma poste, j'étais la dernière personne, dernier Canadien en technologie d'information HP à l'interne qui restait. Puis j'avais refusé de déménager à Houston parce que je ne voyais pas comment je pouvais continuer le ministère créationniste francophone à partir de Houston au Texas. Je trouvais ça une idée. Ça ne semblait pas être le plan de Dieu. Alors là, je me demandais beaucoup de questions. Et c'était vraiment une recherche pour Dieu. Des fois, on a besoin des besoins. Je ne sais pas si on a besoin, mais oui, notre chair a besoin de temps stressant pour nous faire chercher Dieu encore plus. Si tout va bien tout le temps, on a tendance à lâcher prise un peu, puis « Seigneur nous bénit », mais je te dis, c'est plus intense quand on n'a plus d'emploi et on cherche. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça plus intense. Et là, est-ce que j'allais dans le ministère à temps plein? La demande est énorme. Il y a 500 000 chrétiens évangéliques en France. Il n'y a aucun conférencier. Quand je vais là, j'amène avec moi 900 DVD. Il y a des DVD sur la table de livres là-bas, etc., des livres. On les vend au complet en dans 18 jours. C'est fou. La demande est énorme, mais c'est comme... je ne voyais pas comment le faire financièrement et continuer à manger, même si je fais du pain, de l'eau et de l'amour. Alors, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je cherchais, Seigneur. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup d'entrevues. Je me suis certifié en gestion de projet, etc. Et une porte qui s'est ouverte, c'était une compagnie à Trois-Rivières. Les autres portes, c'était toutes à Ottawa et Montréal. Et ils m'ont engagé ici. J'ai accepté l'offre. Je croyais vraiment que c'était la main de Dieu. Et la première place qu'ils m'envoient comme projet, c'est en Afrique du Sud. Mais vous riez, mais là, quand ils m'ont dit que j'allais en Afrique du Sud, un projet d'un demi-million, j'ai dit, attends là, Afrique du Sud, il y a quelqu'un qui m'a contacté par email il y a 2 ans. Il faut comprendre, moi je reçois beaucoup de courriels. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Le site est là, hein, creationist.ca, c'est le site, si tu écris en Google créationnisme, c'est la note qui est la première. Donc, j'ai des appels de journalistes, j'ai des appels de personnes d'autres planètes et j'ai des appels de personnes qui veulent savoir la vérité. En tout cas, il semble qu'ils sont d'autres planètes. Mais là, je me souvenais que quelqu'un m'avait écrit d'Afrique du Sud. Je ne me suis même pas informé quelle ville encore que j'allais. Et j'ai retrouvé la place, j'ai retrouvé la personne, son courriel a changé, j'ai réussi à le retracer. Et là, je me rends compte de quelque chose. Il m'envoie dans la même ville. Et ce gars-là, il a le seul ministère créationniste en Afrique du Sud. Là, j'ai dit, OK, Seigneur, tu dois avoir un plan ici. Alors, je vais continuer à voyager une heure de chaque direction à Trois-Rivières et Princeville, et je vais voir qu'est-ce que tu vas faire. Et j'étais là-bas il y a quelques semaines, et j'ai donné naturellement des conférences le dimanche. Vous pensez que c'est dur d'être ici à 10h le matin, 9h30? J'étais dans une église où c'est 400 Indiens. Il y a beaucoup d'ex-hindous en Afrique du Sud, des hindous qui sont convertis au chrétienté. Et j'étais dans une église, 400 hindous, et leur réunion commence à 8h tapant le matin, dimanche. Et tout le monde est là, à 8h tapant. Imagine, ils sont en train de chanter. Imagine ça, les musiciens, à 8h le matin, là. C'est pas le pratique, là, c'est... En tout cas, je suis musicien, je trouverais ça dur, ouais. Donc, c'est ça. Et ils ont super bien aimé. J'ai pu faire une autre conférence l'après-midi dans une église baptiste. Alors, quand je vais revenir, il va y avoir d'autres conférences et bientôt, ils vont m'envoyer en France. Et j'ai déjà, imagine ça, il faut prier pour ça. Il y a un groupe catholique qui m'a contacté de la France qui veut absolument que la prochaine fois que je passe dans des églises catholiques. Mais si je suis capable de parler dans les universités comme l'Université Laval et Trois-Rivières, c'est quand même pas pire. je sais que c'est pas le terrain chrétien, mais c'est là qu'on est supposé être. Jésus était dans les tavernes, il était dans les... Si on est dans les églises, les personnes qui sont ici, dimanche matin, à 10h le matin, c'est parce qu'ils sont déjà... Ou ils sont déjà chrétiens, ou ils sont très, très, très proches d'être chrétiens. Sans ça, ils seraient dans leur lit dimanche matin. Donc, si on veut aller les chercher, il faut aller les samedis, il faut aller faire d'autres conférences. Je vais vous raconter une histoire avant qu'on rentre dans le sujet de détail, les découvertes concernant Genèse et les Chinois. Une histoire qui pourra peut-être vous encourager. J'ai été demandé il y a quelques années, 2 ans, de faire des bars de science. C'est des tavernes, mais on va dans une microbrasserie et c'est payé par le cégep ou l'université, ce qui est déjà comique pour moi. C'est pas les chrétiens qui l'ont organisé, c'est ils m'ont appelé, ils ont dit peux-tu venir, j'ai fait cégep Saint-Laurent, Jonquière, puis on a fait une autre, à Huntsic, le cégep à Huntsic. Et ils m'ont demandé de venir dans une soirée où ils invitent quelques autres personnes, personnages, et c'était 2 évolutionnistes et 1 créationniste. Je pense que c'est parce que c'est à peu près égal comme ça. Et je ne sais pas, 2 contre 1, il me semble. Mais imagine ceci, vous êtes dans une taverne. Je donne qu'est-ce qui est arrivé à Jonquière en particulier, parce que ça m'a touché. On est dans une microbrasserie. Dans la salle, il y a 150 personnes. En train de boire de la bière, plutôt relax. Et il y a peut-être 2 chrétiens, moi et une autre personne. C'est tout. C'est bien. Ça, pour moi, ça m'excite. Là. Le marché est là. C'est bien. Je peux juste augmenter à partir de ce chiffre-là. Donc imagine qu'on te dit, et pensez à ceci, et c'est une question... qu'il faudrait qu'on réfléchisse. Et les conférences que votre pasteur a organisées, pasteur Joël, je trouve ça vraiment super, les sujets concernant l'apologétique et comment répondre aux questions qu'on reçoit en dehors des 4 murs de l'Église. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on sache. Oui, on a besoin de savoir notre théologie, mais on a besoin aussi de savoir les 10 ou 15 questions qu'ils posent en dehors. Ils ne connaissent même pas Abraham, ils ne connaissent même plus Noé. OK, Adam et Ève, c'est touch and go, là, c'est presque pas là. Alors, il faut commencer de début. Et là, j'étais dans cette situation et imagine qu'on vous présente l'opportunité de présenter votre foi à plein de non-chrétiens. C'est super, mais vous avez juste 3 minutes pour le faire. C'est tout. 3 minutes. Fini. C'est ça qui va faire la discussion de la soirée. Qu'est-ce que vous allez dire en 3 minutes? Si j'avais un micro puis vous êtes des chrétiens ici matures pour la plupart ici de beaucoup d'années, est-ce que vous serez capable, si je vous donne le micro, vous avez 3 minutes à présenter votre foi. Est-ce que vous êtes capable? Sinon, vous avez besoin de le devenir, et au plus vite, parce que les gens n'ont pas une longue durée d'écoute. Alors, j'ai présenté 3 minutes. Je me souviens, en France, on a fait un atelier sur comment présenter notre foi dans des milieux séculiers, et j'ai dit, qui peut le faire en 3 minutes? Le pasteur, je sais quoi, il a présenté en 3 minutes, une très belle histoire concernant la théologie qui était vraie, mais que personne en dehors de l'Église aurait compris. On n'est pas de ce monde. Vous êtes de quelle planète exactement? Comprenez, le langage chrétien, là, ils ne comprennent pas ça en dehors d'ici. Alors, là, sa femme, par contre, elle a dit, mais moi, si j'avais présenté ma foi, je commencerais avec la naissance d'un bébé, la formation de fœtus de mon bébé, comment il a grandi, comment Dieu est créé, comment c'est merveilleux. Ça ne peut pas arriver par hasard, comment un bébé se forme dans le ventre de sa mère et la complexité impliquée. Je dis, il y avait beaucoup moins de science dans ce que vous avez dit, beaucoup moins de théologie, je devrais dire, mais les gens auraient vraiment écouté ce que vous avez dit. Et ça faisait du sens. Et il faut qu'on soit capable de faire ça. On a toutes nos manières de le faire. J'ai fait ça en 3 minutes. Eux autres, ils ont eu 6 minutes, 3 minutes chaque. Et on est passé aux questions. Et beaucoup de questions souvent viennent aux créationnistes, ce qui me donne encore plus d'opportunités de présenter la création. Et là, la raison de cette histoire, c'est ceci. Quand on prie, le Seigneur entend nos prières. Le Seigneur, même si parfois ça prend du temps à recevoir la réponse, il sait qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Et moi, je suis là avec plein de non-chrétiens. Je veux avoir l'opportunité de présenter Dieu, mais je ne peux pas juste leur prendre la Bible. Là. Ça, c'est la fin là, si je fais ça. Ils ne savent pas que la Bible est vraie encore. ne savent même pas que Dieu existe. Et là, il y a un jeune homme derrière moi qui dit ceci. Monsieur Tisdale, je parle vite, hein? vous pouvez acheter le DVD, tu peux le ralentir. Oh là là! Je vais essayer de ralentir. Merci pour le commentaire. C'est bien. Dans ma tête, ça roule encore plus vite que ça. Bon. Le jeune homme me pose ça. Vous dites que nous avons été créés. Là, imagine, je suis dans une microbrasserie à Jonquière. 150 non-chrétiens. Et il dit, pourquoi on aurait été créés? Ça, c'est une bonne question. Et maintenant, comment répondre? Et à cause de mon arrière-plan créationniste et l'importance de Genèse, tout de suite est venu à l'esprit, ou peut-être Dieu m'a inspiré, parce que la Bible dit qu'il nous inspire quand on est en train de parler devant les gens. On est fait à l'image de Dieu. J'ai immédiatement retourné la question à lui. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que nous, on crée? Pourquoi est-ce que nous, on fait des choses? Il a pensé quelques minutes, quelques instants, pas des minutes. Il a dit, mais il dit, on le fait pour notre plaisir. Je dis, c'est exact. Dieu nous a créés pour son bon plaisir. Imagine, je suis parmi 150 non-chrétiens et Dieu a permis l'énoncé que la création est non seulement faite avec attention, mais avec intention. Seulement Dieu peut organiser quelque chose comme ça. Alors, priez et attendez-vous à vos propres histoires comme ça. Ça, c'est une sorte de machine à torture que j'ai sur ma tête. OK. J'ai appris que je ne peux plus reculer, donc c'est bien pour vous. La conférence sera vraiment juste en avançant. Alors, ici, ça, c'est le créationnisme.ca. C'est notre site francophone. Il est un peu en arrière. Le calendrier est en arrière, mais les 80 articles là-dessus sont toujours utilisés et on est en train de changer le site. Mais je vous invite à le venir. Si tu veux devenir membre de l'association, on demande un don quelconque. Et vous pouvez nous aider à continuer notre œuvre. En anglais, il y a creationinfo.com. Là, tu peux voir toutes sortes de choses en anglais concernant la création. C'est les sites créationnistes canadiens que nous, on organise. Bon. Alors, pourquoi une conférence sur la Genèse et la langue chinoise? Il y a quelques années, on m'a demandé d'aller faire des conférences en Suisse et en France. Et pendant que j'étais en Suisse, on m'a demandé de parler à Lausanne, à Jeunesse en mission. Et Jeunesse en mission, à ce moment-là, il y avait 45 Coréens qui étaient dans la salle. Et je commençais à prier, le Seigneur dit, fais de la recherche sur Genèse et les Chinois. Pas juste leur langue et leur pictogramme, mais leur culture. Et j'ai commencé à faire cela, et j'ai lu des livres, j'ai contacté un auteur d'un livre qui s'appelle Dr. Ethel Nelson. J'ai commencé à regarder sur l'Internet les contre-arguments. Elle m'a dit, mais j'ai des nouveaux livres, elle me les a envoyés. Je suis sur l'avion en train de le lire. Et je suis en train de tomber de mon banc dans l'avion parce que c'est renversant qu'est-ce qu'on va parler ce matin. Moi, je trouve que c'est renversant. Et ça explique beaucoup de choses. Premièrement, pourquoi il y a un réveil en Chine sans assez de Bible, sans télévision chrétienne, sans radio chrétienne, sans traité chrétien, mais il y a quand même un réveil en Chine? Pourquoi? Il doit avoir une raison. Je crois qu'il y a une raison. Je crois démontrer à travers cette conférence que les Chinois, dans leur culture et dans leurs livres de base, si vous voulez, de leur culture, les Jing, les cinq Jing, qu'ils avaient une connaissance du livre de la Genèse 800 années avant que Moïse l'a écrit. Okay? Je crois aussi que ce n'est pas par hasard que les rois mages, en passant, il y avait plus que, c'est pas indiqué trois nulle part, là, ni trois couleurs différentes comme qu'on fait dans nos crèches. La Bible dit les mages de l'Orient. Beaucoup de théologiens croient que c'est Babylone, parce qu'il y avait des Juifs en dehors de Babylone, peut-être. Mais ça ne prend pas 2 ans pour arriver à Babylone. On sait qu'ils ont tué tous les enfants 2 ans et moins, parce que les mages avaient parti en suivant la lumière 2 ans auparavant. Donc, 2 ans, moi je suggère, puis peut-être vous serez d'accord, mais je suggère que c'est possible que c'était en fait des personnes du pays de Sinim, de la Chine. Et donc, c'est pour ça que je présente cette conférence et c'est intéressant de façon anthropologique. Il va falloir mettre dans notre pensée une différence culturelle profonde. Leur gouvernement ne change pas à tous les 4 ans. C'est comme une famille qui contrôle la Chine peut le faire pour 2000 ans. Okay? Ils pensent long terme. Et d'ailleurs, il y a un aspect de cela qui est visible dans la Bible, parce que la Bible vient du Moyen-Orient et les gens ne pensent pas comme les Grecs. Les Grecs, c'est A plus B est égal à C. Donc, A est égal à C, B est égal à C. On a comme des sortes de rationnels, un suivi analytique. Mais dans le Moyen-Orient, c'est beaucoup personnel, beaucoup de proverbes, beaucoup de paraboles, beaucoup d'imagerie. Et on a définitivement ça dans la langue chinoise. Donc, ils commencent leur période légendaire à 2205 avant Jésus-Christ, ce qui est étrangement à peu près le temps que le tour de Babel a eu lieu. Il y a eu 3 dynasties, le Chia, Zhang et Zhao. OK, pour ceux qui veulent critiquer ma prononciation chinoise, vous êtes libre de le faire. Une fois, j'ai étudié très fort avec des Chinois pour savoir comment prononcer tous les noms des empereurs. Et j'avais une présentation à faire devant des Chinois à Ottawa. Et je l'ai faite. Ils étaient très contents. Mais un jeune est venu me dire, « Ah, vous avez tout mal prononcé les mots. » J'étais déçu. Son père est venu dire, « Non, il a bien prononcé. » Il dit, « C'est que lui, il parlait cantonais et nous, on parle mandarin. » Là, j'ai oublié ça. Je ne gagnerai plus jamais. Alors là, je vois juste les mal prononcés. Donc, le Chia, Zhang et Zhao, 2205 à 255 avant Jésus-Christ. OK, je vais arrêter de regarder l'écran, je vais regarder lui. Les descendants, ils disent qu'ils descendent de Noé. C'est étrange, on a le même nom que Noé. Mais Noé, Noé, je crois, et sa femme, qui avait les fils Shennong, qui est probablement Sem, et Psi, qui est Japheth. En ancien hébreu, Japheth se prononce Fis. Et ce Essi est quand même là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nomme pas les 3 fils de Noé. Souvenez, il y avait un 3e fils de Noé. Et en fait, ils descendent du 3e fils. Mais jusqu'à aujourd'hui, la plupart des pasteurs coréens, etc., ils vont dire, « Oh, on ne descend pas de Shem! » Pourquoi? À cause de la malédiction qui a été mise sur Shem. Mais, ils descendent tous de Shem. Et on va le voir, qu'ils veulent ou non. Il parle ici, le Shennong sera celui qui aurait été l'originaire de médecine chinoise. On parle de l'acupuncture, mais originaire, pas celui qu'on utilise aujourd'hui, qui est imprégné de mysticisme de l'Est. Le Psi aura écrit les Yijing. Là, les Yijing, c'est les vérités éternelles et on va en regarder plus proche. Ils sont des descendants, en fait, du petit-fils de Shem qui s'appelle Siné en Genèse 10-17. Donc, même les anglophones appellent la région Sino quelque chose jusqu'à aujourd'hui. Et ce nom-là vient du petit-fils de Noé, de Shem. Ils descendent aussi des Hittites. Donc ici, on a un grand empereur d'où vient le nom de la Chine, Qin Shi Huangdi, c'est là qu'il vient le nom Chine, parce que là, eux autres, ils n'appellent pas leur pays Chine, 258 à 209 avant Jésus-Christ. Donc, lui était Hittite. Donc, on se souvient dans la Bible, on parle des Hittites et des Hittiens, et Abraham avait des personnes qui étaient autour de lui qui étaient Hittiens, etc. Il a acheté un champ d'un Hittien. Alors, c'était un grand empire. Et il y a une partie de ces personnes-là qui sont arrivées en Chine et qui ont pris contrôle de la Chine. Et lui, il a vraiment changé beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est cet empereur-là qui a construit le mur de Chine, un énorme mur qui traverse une bonne partie du pays. Il était un empereur assez cruel. Il y a 300 000 esclaves enterrés dans ce mur. Il a essayé de brûler toutes les vérités éternelles. Donc, il a essayé de brûler tous les yin, un peu comme Mao a fait. Ce que je trouve intéressant. Et d'ailleurs, il y a des choses qu'on va savoir, que des livres qui ont survécu seulement parce que Confucius les a cachés dans son mur de sa maison. Et quand ils ont fait des rénovations sur sa maison, ils ont découvert les livres dans le mur. Sans ça, on n'aura jamais su. Donc juste, OK, il faut que je me mette quelque part, mais je vais sûrement bloquer si c'est bas. Je ne sais pas si je peux descendre un niveau pour vous donner une chance parce que je fais une meilleure porte qu'une fenêtre. OK. Donc, ici, c'est Huangdi. Alors, Huangdi, c'est le nom de famille chinois. Et on a les pictogrammes. Ça a l'air simpliste comme pictogramme. Effectivement, nous allons faire référence aux pictogrammes originels, les pictogrammes qui viennent il y a 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ils ont changé un peu par la suite, mais je vais montrer ça aussi. Alors, qui ici a déjà joué le jeu Pictionary? Pictionary, c'est un jeu où tu as une équipe, il faut que tu fasses un dessin, puis l'équipe, il faut qu'il sache qu'est-ce que tu as. Alors, pensez que votre langue pour tout votre peuple est basée sur des dessins. Il va falloir que tout le monde ait une référence qui est pareille. Il va falloir que tout le monde ait le même point de référence. Sans ça, ça marche. Si vous faites une maison avec un toit, puis vous êtes en train de parler aux Inuits qui vivent dans des igloos, ça ne marchera pas, là. Ils n'ont pas le moindre idée de quoi que tu es en train de... Vous comprenez le défi? Alors, il faut, si on va faire une langue faite de dessins, il va falloir que tout le monde ait la même histoire. Il va falloir qu'il y ait une compréhension générale. Wang Ti veut dire... On divise les deux images. Ça, c'est un noble qui vient du jardin d'où sort quatre rivières. Il dit, on descend tous du noble qui sort d'un jardin d'où vient quatre rivières. Intéressant. Pour ceux qui connaissent le jardin d'Éden, il y avait quatre rivières. Acte 10, 34, 35 dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Donc, on ne peut pas imaginer que Dieu a oublié un quart de la population du monde. Il ne l'a pas oublié, comme nous allons voir. En Isaïe, la première fois où on voit la Chine mentionnée en Isaïe, c'est dans la Bible, c'est Isaïe 49, 12, où c'est marqué, « Voici, les uns viennent du loin, les uns du nord et de l'Occident, et les autres du pays de Sinim. » Il parle des Juifs qui retournent en Israël à partir de la Chine, pays de Sinim. Donc, voici un peu le mur de Chine. Alors là, on va commencer à citer. Vous avez sûrement entendu du taoïsme. Avant le taoïsme, était le daoïsme. Et avant le daoïsme, était le dao. Donc, le dao, c'est ce qu'on va regarder. Parce que, oublie le taoïsme, c'est tout du bouddhisme. Mais, c'est quoi le dao? Han Yu, dans 700 ans avant Jésus-Christ, 800 ans avant Jésus-Christ, dit ceci. « Ce que j'appelle le dao, la voie, si vous voulez la voie, consiste à ceci. Yao l'enseigna à Shun, c'est des empereurs. Shun l'enseigna à Yu. Yu l'enseigna à Tang. Tang l'enseigna au duc de Zhou. Le duc de Zhou l'enseigna à Confucius. Confucius l'enseigna à Mencius. Et quand Mencius mourut, le Dao ne fut plus enseigné à personne. » Donc, vous comprenez, il y avait comme une suite de connaissances qui s'est faite jusqu'aux disciples de Confucius Mencius, qui était à peu près 500 années avant Jésus-Christ. Et après ça, le Dao a perdu son sens pour la plupart des gens. Ça, c'est très important à se rappeler. Il dit que le grand ciel donna aux anciens rois l'empire du milieu avec ses rois et ses peuples, dans le Shujing. Donc, il parle d'un grand roi qui aura donné la Chine au peuple chinois. Et ils ont, dans les classiques, ils ont les quatre livres et les cinq Jing. Donc, ils ont neuf livres, mais c'est les cinq Jing sont ensemble. Et des Jing veut dire vérité éternelle. Donc, ils ont comme quatre livres de base. C'est comme des Bibles, si vous voulez. Ils les considèrent comme tels aussi. Là, dans le Dao, Lao Tzu était une personne, une sage, en voyant la corruption qu'il y avait, un peu comme un Jérémie, en voyant la corruption qu'il y avait dans la Chine et comment ils avaient quitté le vrai Dao, lui, il quittait le pays. Et arrivé à la frontière, celui qui était à la frontière, la garde, l'a reconnu, il dit, « Tu ne quittes pas notre pays à moins d'écrire quelque chose pour nous. » Il s'est assis, il a écrit 5000 mots, 5000 pictogrammes, c'est le livre de Lao Tzu. Et on ne parle plus de Lao Tzu, il est parti, on ne l'a jamais plus revu. Mais c'est ce qu'il a écrit est profond. Et on va citer quelques parties du Dao de Lao Tzu, comme ceci. Il décrit le Dao et il dit ceci. « Quelque chose de mystérieux déjà créé, existant avant le ciel et la terre, dans le silence et le vide, éternellement présent et en mouvement, peut-être est-il la source de myriades de choses. Je ne connais pas son nom. » Je l'appelle Dao. Faute de meilleurs mots, je l'appelle le Tout-Puissant. L'homme suit la terre suit les cieux suivent le Dao et le Dao suit sa propre voie. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que le Dao n'est pas fait de matière. Le Dao n'a pas besoin d'un début. Il n'y a pas de fin non plus. Il suit sa propre voie. Il n'est pas associé. Il fait la création. Et la création suit qu'est-ce que lui dit, mais il est plus haut que la création. En passant, si vous avez jamais entendu la question « Qui a créé Dieu? Qui a créé le Créateur? » La réponse est simple. Vous avez deux choix. ou la matière est éternelle, ou le Créateur est éternel, qui n'est pas fait de matière. Vous avez juste deux choix. La matière n'est pas éternelle. Tout va vers le désordre. Deuxième loi de thermodynamique. La matière doit avoir un début et il va vers le désordre. Mais l'univers est un effet. Il doit avoir une cause. La cause doit être avant l'effet. Ça a du sens? On a un effet, il faut que la cause soit avant et assez pour produire l'effet. Donc Dieu est avant la matière, donc avant le temps. Il n'est pas dans le temps, donc il n'y a pas besoin d'un début. OK, on retourne dans les Chinois. Petite parenthèse. Des fois, je suis tanné d'entendre les mêmes questions tout le temps en dehors d'ici. Voilà. OK. Là, attachez vos ceintures. Je ne sais pas si vous avez des ceintures, mais on va les attacher. Parce que c'est quelque chose qui est un mystère pour les taoïstes, c'est ceci. Le Tao existe en un existe comme deux, deux existe comme trois, et trois créa toutes choses. On parle de quoi? On semble parler de quoi ici? La Trinité, que le Tao est une Trinité. Intéressant. On voit la Trinité pour la première fois dans l'Ancien Testament, comme pas juste pluriel, Elohim, c'est pluriel en Genèse, mais comme Trinité, on le voit en Isaïe 48, 16. « Approchez-vous de moi et écoutez, dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette, dès l'origine de ces choses, Dieu qui parle, j'ai été là, et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. » Comprenez, on a une Trinité qui est là. Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de place, mais j'ai juste pris 1 Jean 5, 7 à 8, où il dit le Père, il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole, le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Donc, ce concept-là de Trinité, il ne vient pas juste avec les Juifs ou les chrétiens. Dans la Légie, c'est marqué « Le ciel a donné l'exemple et les hommes saints le suivent. Le sacrifice de la frontière est la manifestation du Tao du ciel. » Donc, il va falloir qu'on comprenne ce qu'ils appellent le sacrifice de la frontière. On a vu que le Tao semble être, qui a été perdu avec le temps, que le Tao était en dehors de la matière, était le Tout-Puissant, et qui était formé d'une trinité qui a créé toute chose. On a vu ça. Là, ils disent que pour vraiment comprendre le Tao, il va falloir comprendre le sacrifice de la frontière. OK, on va aller regarder le sacrifice de la frontière. Donc, c'est quoi le sacrifice de la frontière? Confucius a dit, celui qui comprend les cérémonies des sacrifices, il appelle ça sacrifice ciel et terre. Il ne sacrifiait pas au ciel et la terre. C'est que ça, il sacrifiait pour le ciel et la terre. Découvrira que gérer le gouvernement d'un royaume est aussi facile que de regarder la paume de sa main. Bon, ça c'est une manière de penser orientale. Okay? C'est une manière compliquée de dire que c'est très profond qu'est-ce qui arrive dans les sacrifices de la frontière. Il est en train de dire que c'est presque plus facile de gérer toute la Chine que de comprendre la profondeur de la cérémonie de la sacrifice de la frontière. Okay? Donc, je crois que c'est important que nous, on comprenne c'est quoi. Alors, on va regarder. Pas que vous serez capable de gérer la Chine après, hein, mais... Dans le Shuqing, il documente que le fait que l'empereur Shun, donc un des premiers empereurs, il sacrifiait à Shengti. Ça faisait partie, ce sacrifice était à Shengti. Les sacrifices s'offraient à la frontière est de la Chine. Rappelez-vous de la frontière est, ça va être important, on va revenir. Est pour eux, ce n'est pas le Pacifique, là. C'est la frontière ouest, mais est pour le reste du monde. Comme nous, on dit, on va au Orient, hein, au Moyen-Orient, en Orient, c'est à l'est. Donc, pour eux, la frontière est, c'était l'est pour le reste du monde. Et au 15e siècle de notre ère, l'emplacement de ce sacrifice-là fut déplacé au sud de Beijing, dans l'Hôtel du Ciel, qui existe encore, je vais vous montrer. La tradition fut maintenue pendant 4000 ans, la tradition de ce sacrifice, quoique pas de la même manière, parce qu'ils ont perdu la connaissance du Tao. Mais ça, c'est l'Hôtel du Ciel, il est encore à Beijing, et vous voyez ici le pictogramme pour Shengti, qui est ici. Ils n'ont jamais fait d'image de Shengti, ils n'ont jamais fait de statue, ils ont simplement écrit son nom, c'est tout. Il était monothéiste. OK. Là, on va regarder le sacrifice. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Wow! Pas facile à lire, ça. OK. Juste écoutez. Quand ils font le sacrifice, ils racontaient, tout le monde se réunissait, et c'était une cérémonie d'au moins 3 jours, et l'empereur était le centre de cette cérémonie-là. Et les gens venaient, puis ils écoutaient quoi? Ils écoutaient raconter leurs origines. Et voici comment se passe leur origine. Ça, c'est bien avant la Genèse. C'est 1000 ans et plus avant que la Genèse fût écrite par Moïse. Des temps anciens, au début, il y avait un grand chaos, ténébreux et sans forme. Les cinq éléments, les planètes, n'ont pas commencé à tourner, ni le soleil et la lune n'ont brillé. Toi, au souverain spirituel, as premièrement divisé les parties brutes des parties pures. Ça, c'est l'eau du sol. Tu as fait le ciel, tu as fait la terre, tu as fait l'homme. Tout être avec leur puissance de reproduction ont eu leur existence. Ils reproduisent d'après leur sorte. Il, Shang-Ti, a établi pour toujours le ciel qui est par-dessus tout et la terre solide. Son gouvernement est éternel. Ta bonté souveraine ne peut se mesurer. Comme le potier, tu as fait toutes choses vivantes. Les cérémonies des sacrifices célestes et terrestres sont celles par lesquelles l'homme sert Shang-Ti. Donc, il y avait vraiment un lien sur comment servir le Tout-Puissant à travers ce sacrifice. Bon, on va continuer. D'autres choses qui sont dites durant la statue. L'empereur disait ceci. « Pendant que nous célébrons son grand nom, quelle limite peut-il y avoir ou comment le mesurer? Pour toujours, il maintient les cieux en haut et établit la terre solide. » Son gouvernement est sans fin. Son serviteur indigne, je courbe ma tête, je me couche dans la poussière, baigné dans sa grâce et sa gloire. Et dans le cantique final, l'empereur s'est dévesti de ses vêtements d'empereur et il dit ceci vers la fin, nous avons loué et écrit le grand nom sur cette page embellie, maintenant nous te le montrons, Ti, et nous le plaçons devant Ti et nous le mettons dans le feu. Tous les coins de la terre regardent à lui, tous les êtres humains, toutes choses sur la terre regardent à lui, tous les êtres humains, toutes choses sur la terre se réjouissent ensemble dans le grand nom. Ça ressemble étrangement à des écrits juifs, écrits beaucoup plus tard. OK. Dans la dynastie Shang, on a reconnu Shang-Ti comme vrai Dieu suprême. Il est possible que ceci a continué jusqu'à l'empereur Qinshi Huangti. Donc, pendant peut-être 2000 ans, mille quelques années, il était clairement monothéiste, fidèle au Shang-Ti. Et au temps de la dynastie Han, le bouddhisme et le taoïsme ont remplacé l'adoration de Shang-Ti. Donc là, on a un mélange de vérités. L'écriture s'est développée sous le règne de l'empereur jaune, le Huangti. Donc ils disent qu'en fait, l'écriture sort du jardin d'Éden, que tout de suite, il y avait la capacité d'écrire. Et il y a quelque chose de vraiment bizarre ici concernant les hiéroglyphes sumériens et les pictogrammes chinois, c'est que la Chine n'est pas proche de la Sumérie de tout, même pas un petit peu proche. Personne n'a fait un lien entre ces deux cultures. Et par contre, il y a vraiment des liens dans leurs pictogrammes que pour la même prononciation, ils ont les mêmes symboles. Pourquoi? Parce que la Bible est vraie. Il y a eu une catastrophe qui s'appelle le Tour de Babel, où tout le monde, Dieu, quand ils ont sorti de l'arche, qu'est-ce que Dieu a dit à Noé, ses fils et leurs femmes? Remplir la terre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils faisaient tout à un endroit? Ils n'ont pas suivi qu'est-ce que Dieu a dit. Puis leur plan n'était pas bon non plus. Et Dieu, il est venu séparer, il les a donné des langues, ils ne pouvaient plus parler, alors il fallait qu'ils se séparent. Et les gens vont dire, dans les universités, ils vont dire, ah, c'est un conte de fées, c'est une mythe. Ah oui? Alors pourquoi les Chinois et les Sumériens ont le même pictogramme? Il doit y avoir un lien quelque part ici, qui les ramène au centre. Bon, on va parler des pictogrammes qui sont sur les os d'oracle. C'est les plus anciens pictogrammes, donc le moins perverti. On va voir ça. Bon, je sais que le ciel aime les hommes profondément avec raison. Ciel a commandé le soleil, la lune, les étoiles de fournir aux hommes la lumière pour les guider. Ciel a ordonné les quatre saisons. Donc ici en bas, je vais baisser pour bloquer tout le monde. Ciel ici, c'est Dieu. Et à partir de ça, on a grand noble que vous avez vu tout à l'heure et d'en haut. Donc, tu as un grand noble d'en haut, ça c'est une manière d'écrire Dieu. Mais il n'y a pas juste une manière, il y a plusieurs manières. Manifester le divin, donc le Dieu qui se manifeste, c'est une personne d'en haut. C'est intéressant comment ils mettent une personne là-dedans. Le début, le premier ou la tête divin, c'est encore une personne d'en haut, une forme un peu différente. Et ceci nous démontre que le Créateur est une personne et nous sommes à son image, parce qu'il y a ce lien avec personne. Mais d'en haut, il ne vient pas d'en bas. Alors, on a quatre caractères, puis on a ceci qui est très bizarre. Manifester, une autre image pour manifester le divin, c'est trois personnes d'en haut. Donc, une autre fois, on voit cette trinité. Donc, nous avons vu quatre caractères, dont un que je n'ai pas expliqué. Entre les parenthèses, ça, c'est le caractère moderne. Okay? Donc, l'os d'orax, c'est ici. Donc, on a le début, premier ciel manifesté, toujours d'en haut. Le Shang-Ti, on va le voir à la fin de la conférence. Il est plus complexe. Il faudrait que je vous donne, qu'on commence lentement. Hein? Alors, ici, c'est la pluie. Ça, je mets ça parce que c'est... Et l'auteur met ça aussi parce que c'est un peu bizarre. La pluie, c'est en fait... Oups! Aïe, aïe, aïe! Sors-moi de ça de là. Comment on fait? Voilà. Merci. Ah, c'est vrai, je ne peux pas reculer. J'ai causé... OK. On va laisser comme ça. Alors, la pluie, c'est d'en haut, trois personnes d'en haut avec de l'eau. Mais pourquoi ils associeraient la pluie avec la Trinité de Dieu? C'est une question à se poser. Je trouve intéressant que la Bible aussi parle de la pluie. Il parle de en Joël, il parle de le Saint-Esprit qui vient les derniers jours sur toute chair comme étant la pluie de la première puis arrière saison. Est-ce qu'ils avaient une connaissance approfondie de la nature de Dieu? C'est une question à se poser. Alors, maintenant, regardons un peu la création. Donc, j'ai pris des pictogrammes qui ont un rapport avec la création. Produire, c'est Dieu qui fait quelque chose avec la terre. Ça, c'est produire. OK? Faut se souvenir, on a des pictogrammes, c'est des images. Il faut que toute la Chine, tout le peuple ait la même histoire pour être capable de comprendre que... Ça, c'est, ils ne vont pas dessiner comme Dieu la terre puis l'expliquer. Ils vont juste dessiner ceci puis c'est produire ou créer. Dieu qui fait quelque chose. Parler, c'est créer avec une bouche. Donc, Dieu prend la terre, il parle et ça crée quelque chose. Ça, c'est intéressant parce que dans les écrits juifs, qui devraient avoir aucun rapport au pictogramme chinois, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est ça l'action de Dieu, c'est quand il parle. Quelque chose arrive. Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'herbe. Dieu dit qu'il y a des luminaires. Quand Dieu parle, quelque chose arrive. C'est pour ça que c'est tellement important. Qu'est-ce que nous, on fait quand on a accepté le Seigneur, puis on marche avec l'Esprit de Dieu en nous, puis on parle, nos paroles ont une importance spirituelle profonde. Et la Bible parle de comment on a la mort et la vie dans notre langue. Argile, que je crois est Adam, c'est une flamme qui sort du terrain. Donc, on voit ici, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant et non un singe évolué. Donc, en passant, une flamme, c'est rouge. Et Adam, c'est rouge. Donc, c'est intéressant ça. Une flamme qui sort du sol. Puis je vais montrer d'autres raisons pourquoi je crois que c'est Adam. Une personne mâle, c'est une personne qui est sur le sol ou qui sort du sol. Un artisan, quelqu'un qui fait de l'art, c'est Dieu avec une personne mâle qui sort du sol. Ça, c'est un artisan. Ça, je trouve intéressant. Parce que quand on est artiste et peintre, on va évaluer notre travail. Hein? On va peinturer, on va reculer, puis on va dire, « Ouais, c'est bien, c'est bon. » Qu'est-ce que Dieu a fait chaque journée? Il fait sa journée, puis il recule, il dit, « Ouais, c'est bon. » C'est un artiste, Dieu. C'est un artiste. Ah, question trivia. Qui sait quelle journée Dieu n'a pas dit que c'était bon? Non, pas la dernière. Non, oublie la septième, il n'a pas parlé. Non, sixième, c'était très bon. OK, tu pensais que je faisais un piège, mais ce n'était pas le cas. Donc, on a oublié six. Il y a cinq qui restent. Je laisse un autre choix. Qui va oser? Non, c'était avant l'histoire de Noé. Attends. Non, ça, c'est encore sixième jour. Quelqu'un va oser un autre jour? Regarde, il y en a cinq, choix. Je prenais un au hasard. Hein? Première? Non, c'est pas la première. OK, c'est la deuxième. La deuxième, c'est il a séparé l'eau du sol et je crois et de la terre. Je crois que c'est parce qu'il savait, que c'était juste une idée, que l'eau allait détruire toute la création de façon subséquente avec le déluge. Mais en tout cas, c'est le deuxième jour qu'il n'a pas parlé que c'était bon. OK, on continue avec nos pictogrammes. Donc, ça c'est le pictogramme pour saint. Alors, on a encore cette flamme qui sort du sol, ce que je crois est Adam. Et en haut, c'est en fait les mains qui viennent du ciel. C'est des mains de Dieu qui façonnent la flamme qui sort de la terre. Et c'est saint. Parce qu'au début, la création d'Adam était saint. ils semblent avoir la même histoire. Grand ou bon, c'est un homme qui sort de la flamme, qui sort du sol. Donc Dieu façonne l'argile ou la poussière et il crée quelque chose qui est bon et qui est saint. Et on voit ça dans la Genèse. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela a été très bon. On continue. Place morale, là ça a l'air plus complexe, place à centralité. On a une trinité plus Adam, ce que je crois être un homme mature, disons, une trinité plus Adam, ça fait celui qui fait des miracles. Et on ajoute à ça une personne qui fait la barre ici. Bon, ça c'est une place centrale, modèle moralité. On va revenir là-dessus, ça devient important plus tard. Mais c'est quoi? Un modèle de moralité, c'est quelqu'un qui est sans péché. OK? Qui est sans péché. Un symbole que nous retrouvons souvent démontre un homme à genoux, comme vous voyez ici. Ce symbole, je crois, doit avoir un rapport avec Adam. Voici pourquoi. Le symbole pour empreinte, donc on a une empreinte, une marque, c'est ceci. C'est simple, ça. Vous êtes capable de le faire vous-même. C'est quoi ça ici? Main de Dieu et l'autre? C'est ça, une main de Dieu sur un homme à genoux. Donc on a, pourquoi? Parce qu'on est la signature du Créateur. On est signé de sa création. En passant, pour les évolutionnistes qui veulent vous faire croire que tout le monde croit à l'évolution, il faut se demander pourquoi 85% des Canadiens croient que Dieu a créé l'homme. Ce sont juste 9 à 15% qui sont évolutionnistes au Canada. Moi, je pense qu'on devrait passer une loi pour les protéger contre la disparition de l'extinction totale. Je sais pas, 9 à 15 %, c'est pas beaucoup. Ils font beaucoup de bruit, mais apparemment, pas tout le monde les croit. OK. Préparer. Bon, voici celle-là. On sait c'est quoi la main de Dieu. Mais c'est quoi ça? Quelqu'un peut me dire c'est quoi l'autre? Un poisson. OK. Une deuxième choix? Un quoi? Une emprise. Bon, non. C'est une femme. Moi, Lucie, ma femme, quand elle a vu ça, « Ah, oh, ça, c'est un homme avec un cerveau. » Puis j'ai dit, non. j'irai pas là. Mais préparer convenable. C'est intéressant que le mot préparer convenable, c'est une femme. Ça nous rappelle quelque chose en Genèse, ça. OK, ceci, c'est quoi? Maison. Vous pensez que c'est une maison? C'est 6. OK, pourquoi? Effectivement, c'est une maison. Pourquoi ces maisons, c'est 6? Quelqu'un? 4 murs puis 2. Je vois juste 2 murs, mais... 6 jours. OK, pourquoi 6 jours aura un rapport avec une maison? Créer tout l'univers en 6 jours, mais quel est le rapport avec la maison? Fondation? Ça, c'est original, mais non. C'est une bonne idée. Ah, ça, c'est intéressant. Quand on dit, je quitte mon travail puis je m'en vais à la maison, est-ce que vous arrivez à la maison et vous donnez des becs au mur? Wouhou, je suis arrivé, il y a un mur de briques. Non. Ce qui est plaisant à arriver à la maison, c'est que la famille vit dans la maison. En fait, qu'est-ce qui fait la maison? C'est la famille. Donc, à quel moment durant la création il y a eu la première famille? 6e journée. OK? Et après ça, j'ai ce pictogramme ici qui veut dire place de repos. Ce qui est intéressant ici, c'est que place de repos, c'est une maison plus 7. Okay, c'est sûrement pas 7 enfants. Parce que Joël en a 5. Il va résoudre à lui tout seul le problème de manque d'évangélique au Québec. Ah, je lui dis, il est en train de faire la bataille du berceau, c'est ça? Version évangélique. Bon, place de repos, c'est 7. Mais qu'est-ce qui est arrivé qui était du repos 7? Ah, mais vous êtes en train de... 7e jour de la création, vous êtes en train de citer des écrits juifs. Écrits 5 à 800 ans après ces pictogrammes. Exode 20, 11 dit, 46 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu et il s'est reposé le 7e jour. OK. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, Genèse 2, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, regardons quelques pictogrammes qui ont du rapport, je crois, avec cette partie-là de l'histoire. Content un repos, c'est un homme à côté d'un arbre. Il est content, il est au repos. Il y avait deux arbres dans le jardin. La vie, connaissance du bien et du mal. Manger le fruit de l'arbre de la vie, ce n'était pas un problème. Connaissance du bien et du mal, ça, c'était un problème. Riche, complet, l'émerveillement, c'est un drôle de pictogramme. C'est un arbre qui a des flammes par-dessus, mais qui ne brûle pas. Ah! Où est-ce qu'on a vu ça dans la Bible? Un buisson ardent. Souvent, quand Dieu est là, il y a du feu en haut des montagnes, etc. Dans les pictogrammes chinois, il démontre Dieu sur une montagne. Je n'ai pas tout le temps à rentrer dedans, mais sur une montagne, dans ce jardin où il y avait quatre rivières, là, et la montagne est entourée de feu dans leur pictogramme. Donc, ce riche émerveillement, ça, c'est un arbre. Peut-être c'était l'arbre de vie qui était comme ça. Je ne sais pas lequel des deux, mais une drôle d'arbre. Mourir ou périr. Là, on est encore dans un arbre, mais c'est un arbre créé par trois mains, qui veut dire mûrier, avec deux bouches. Ça, c'est très complexe pour écrire le mot mourir. Comprenez? Si vous avez à inventer une langue avec des images, je pense que vous n'aurez jamais fait ce pictogramme ici pour expliquer à vos amis c'est quoi mourir. Il faudrait que vos amis aient exactement la même histoire et que l'histoire ait une importance capitale. Ici, on a trois mains, font un arbre, et c'est un mûrier. Là, dans les livres que j'ai lus, ils ne savent pas pourquoi c'est mûrier, mais j'ai fait un peu de recherche là-dessus. Deux bouches. Donc, il y a deux personnes impliquées à un arbre fait de trois mains, et ça a du rapport avec mourir ou périr. Mûrier veut dire, en hébreu, alors je suis allé dans l'hébreu, baka, ou c'était baka, qui veut dire pleurer, angoisse, sanglot, profond. Quand Adam et Ève ont partagé du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, vous pouvez garantir qu'ils savaient que tout avait changé. Et c'était en sanglots qu'ils ont quitté celui-là. C'était un désastre total et ils le savaient. Et ça semble être représenté. Se retenir ou se lier, c'est une bouche attachée à un arbre. Si vous allez faire se retenir, je suis lié, est-ce que tu vas faire un arbre avec une bouche? Non. Non. Mais ça a du sens si on présume qu'ils ont la même histoire que nous en Genèse. Exactement la même histoire. Non ou négatif, c'est un serpent avec deux arbres. Désirer ou convoiter, là vous avez assez de chinois pour savoir. Ça, c'est une femme entre deux arbres. Elle a vu que c'était bon. Elle a désiré. Problème ou difficulté, c'est un arbre à l'intérieur d'un jardin. Ça, c'est devenu un problème. On va lire quelques versets. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, et l'Éternel Dieu que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, Satan, elle s'est jamais posé la question, qu'est-ce qu'elle faisait là, je ne suis pas sûr, mais Satan était là en train de lui faire présenter une nouvelle image de la vérité. Il fait la même chose aujourd'hui. Il n'a rien changé dans ses tactiques. Et vous pouvez le lire vous-même en chapitre 3, mais je vais sauter à chapitre 6. La femme vit que l'arbre, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux. Elle a convoité. Pour ouvrir l'intelligence. En passant, comment ça, elle a vu qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence? Ça, c'est une fausse image que le serpent avait créée dans sa tête. Et elle a embarqué dedans. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Moi, je me suis demandé pourquoi Adam n'était pas là et elle était là, puis il l'a rejoint par après. Mais je pense que je sais pourquoi. Sais-tu pourquoi Adam était là après? Mais c'est parce qu'il s'est perdu en chemin, mais il ne voulait pas l'admettre. Non, c'est vieux cette situation. C'est vieille. C'est pour ça qu'on a laissé les hommes qui ont fait les GPS. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Ceinture de vérité, quoi. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Je mettrai l'inimitié en toi et la femme, en ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Intéressant ce verset ici, spécialement dans un environnement comme le Québec qui est catholique, même quand il y a Trois-Rivières, si tu vas au centre-ville où il y a le petit parc, il y a une église, l'Immaculée Conception, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a bien du Marie là-dedans. Et vous allez voir Marie avec le serpent sous ses pieds à elle. Mais ce n'est pas de tout biblique. C'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. C'est pas le petit Jésus et le grand Marie. C'est le petit Marie et la petite Marie et la grande Jésus, le grand Jésus. Bon. Alors, on continue ça. Puisque tu as écouté, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel tu avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines. On va regarder le caractère pour épines. Et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau, il les revêtit. Oh là là! Est-ce que vous connaissez un animal qui est équipé d'une ouverture éclair pour changer sa peau? Si un animal... Il n'y a pas d'animaux comme ça, là. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de parler ici? Un sacrifice. Donc, un animal est mort. Pour la première fois, Adam et Ève vont voir la mort, la souffrance. Quoique je suis sûr que Dieu n'a pas fait souffrir l'animal. Mais vous comprenez, la mort est là, le sang a coulé. C'était une situation terrible. Vous êtes au paradis. Vous n'êtes plus au paradis. Et c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui l'agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. À l'orient. C'est quoi l'orient? C'est l'est. Donc, jusqu'au déluge, il pouvait revenir et il y avait deux grands chérubins qui protégeaient le jardin d'Éden. Et c'était à l'orient. Je crois que c'est pour ça qu'ils faisaient un sacrifice annuel à la frontière est tous les années. Il répétait une tradition que Adam et sa famille avaient, où chaque année, il allait le plus proche possible qu'il pouvait du jardin, devant les chérubins, et il sacrifiait un animal. Là, la Bible ne nous dit pas lequel. On pense, on sait lequel. On va regarder, c'est peut-être les Chinois qui savent lequel. Mais, sacrifier un animal pour en rappelant de la situation qu'ils avaient vécue à l'intérieur du jardin. C'est intéressant que ce sacrifice-là est similaire avec les Chinois. Bon, quelques pictogrammes, on n'a pas beaucoup de plus, là, mais il y en a beaucoup à voir, mais il y en a 26 000. On est bon pour le matin? OK, trébucher tombé. Je vais essayer de finir le plus vite possible. Vous laissez dehors dans le beau soleil. Trébucher ou tombé, c'est plus complexe. C'est deux personnes qui arrêtent dans un jardin d'où sort quatre rivières qui est fait par Dieu. Ça, c'est trébucher ou tombé. Et jusqu'à maintenant, on appelle ça la chute de l'homme. Mais ça, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. Porter le deuil. C'est une personne avec un serpent. Des épines. Tu te souviens, on avait parlé de comment Dieu a maudit le sol. Il a dit des épines et des ronces. OK? Mais épines, c'est quoi? C'est une personne, en bas, c'est une bouche. C'est une bouche, deux arbres. Une personne qui mange ou qui ouvre la bouche entre deux arbres. C'est des épines. Il faut que tout le monde ait la même histoire pour comprendre ce pictogramme-là. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est pas pour rien que Jésus a mis une couronne d'épines sur sa tête. Il est en train de prendre la malédiction du début sur lui. Et quand il a dit « tout est accompli », tout est accompli. Bon, c'est un fils, semence, plus une femme. Ça devient quelque chose de bon, parce que quoi? Il va écraser la tête du serpent. Et des étrangers. Là, si vous allez faire un dessin pour décrire des étrangers, je pense qu'ils seraient insultés si vous faites un pictogramme comme ça. Je ne sais pas, ouais, ça a l'air bizarre. Mais c'est quoi? Étranger, c'est un homme ou une femme qui sont en dehors du jardin qui a quatre rivières. D'où vient ce quatre rivières? Ils sont maintenant en dehors. Ils sont étrangers. Justifié. Ça, c'est la main. Moi, la main et une lance, c'est moi. Okay, moi, j'ai une main puis une lance. Et j'ajoute à ça cette drôle de caractère qui est un agneau. Je viens, moi, avec l'agneau, moi avec une lance, avec l'agneau, je deviens justifié. Ah, intéressant. Beau. Si vous allez à faire une image pour représenter beau, vous êtes en train de jouer le jeu Pictionary, puis tu veux que les gens devinent, vous allez perdre. Vous mettez ce dessin-là, vous allez perdre pour beau. Personne ne va deviner que ça, c'est beau. C'est un noble couvert d'un agneau. Ça, c'est beau. Ça, c'est plus bizarre. Ça, c'est vilain. Vilain, c'est un frère aîné qui a une personne qui a une marque. C'est un frère aîné qui a une marque sur lui. On connaît l'histoire de Caïn et Abel. Vous pouvez lire. Je n'ai pas le temps de rentrer dedans, mais il y a eu une marque sur lui. Donc, ils ont vraiment... Et ça, c'est juste quelques pictogrammes. Je pourrais le faire pour quelques heures. des pictogrammes qui ont du rapport avec Genèse. On va aller à une autre section pendant cinq minutes sur au commencement, sur le déluge. Il parle au commencement de l'eau qui monte au soleil, là, commencement. Toutes les cultures au monde ont l'histoire du déluge. Pour quelque chose qui n'est jamais arrivé, c'est bizarre que toutes les tribus, toutes les mythologies parlent d'un déluge global. Ça n'a pas de sens de dire que ça n'a jamais arrivé si tout le monde en parle. Nous pouvons déjà lire l'histoire du déluge dans le Xinxing et le livre des documents de Xuching. Les eaux du déluge étaient partout, détruisant tout au fur et à mesure qu'elles montaient au-dessus des collines et elles se sont élevées jusqu'au ciel, dit le Xuching. Donc là, ici, on a le caractère pour bateau. Bateau, ce caractère-là, qui est le caractère moderne, c'est un vaisseau avec 8 bouches dessus. Aujourd'hui, en Chine, quand on écrit bateau, on écrit un vaisseau avec 8 bouches. Je dis, mais pourquoi tu mets 8 bouches sur un bateau, sur un vaisseau, ça veut dire bateau? Ils n'ont pas le moindre idée, parce qu'ils ont perdu le Tao après Mencius. Ils ne comprennent pas comment toi a créé toute chose. Comment peuvent-ils comprendre? À moins que quelqu'un les envoie une Bible. Et là, toutes les questions qu'ils ont sont en train d'être répondues. Huit unis sur la terre veut dire total, dans plusieurs langues d'ailleurs. On prend total, on ajoute eau, et c'est le mot pour déluge. On a le total, huit de tout ce qu'il y avait sur la terre, c'est le total de tout ce qu'il y avait sur la terre, huit, et on ajoute de l'eau, et on a le déluge. Ils ont clairement la même histoire du déluge. D'ailleurs, même dans nos langues, pourquoi penses-tu qu'on parle de neuf après huit? Huit, c'est le total, et maintenant tu commences à neuf. C'est tout à cause du déluge. Ça, c'est quand Noé a pris le pic bois sur le bateau. pic bois fait des trous, bon voilà. Juste une parenthèse ici. On a un problème. On veut présenter la vérité à nos enfants dans les écoles du dimanche et on veut le faire d'une façon qu'ils puissent le comprendre. Donc, on utilise des bandes dessinées. On utilise des choses simples. On surestime, je crois, la capacité des enfants de comprendre leur environnement. Sous-estime. On sous-estime, pas surestime, sous-estime. Je crois que c'est une des raisons pourquoi quand les jeunes partent à l'université, en dedans de un an, ils ont perdu leur foi. Pourquoi? Ils ont vu tout en bande dessinée. Mais à la télévision, ils montrent l'évolution de l'homme en 3 dimensions, comme si c'était un fait, même si c'est toute l'imagination. J'aime la façon que les Chinois le présentent. On va sauter ça, on n'a pas le temps. Ah, mon ordi n'est pas ici. OK. Ça, c'est comment les Chinois le présentent. Dans les temps très anciens, les 4 piliers ont été brisés, les 9 provinces du monde habitable étaient divisées. Ciel ne couvrait pas complètement la terre et la terre ne supportait pas complètement le ciel. Les flammes brûlaient sans être éteintes. Les eaux ont inondé sans être arrêtées. Les bêtes féroces mangeaient les personnes et les oiseaux de proie prenaient les âgés et les enfants dans leurs griffes. Ce n'était pas une scène où Noé et sa femme sont sur le bord d'un bateau en train de saluer tout le monde avec un gros sourire. Non. C'était un désastre total. C'est le jugement de Dieu. Tout ce qu'ils connaissaient était en train d'être détruit devant leurs yeux. Et qu'est-ce qu'ils voyaient était terrible. Le bateau n'a même pas commencé à flotter avant 40 jours. Donc, pendant 40 jours, les gens, c'est pas Noé qui a fermé la porte, c'est Dieu qui a fermé la porte. Pendant 40 jours, Noé est à l'intérieur avec ses enfants et leurs femmes sont à l'intérieur d'un bateau. Les gens, maintenant, ils commencent à pleuvoir, ils commencent à nager, ils veulent rentrer dans le bateau, mais ils ne peuvent rien faire. C'est trop tard. Vous savez, la même chose arrive dans notre vie. La Bible dit que après la mort, c'est le jugement. À un moment donné, c'est trop tard. On prend nos choix ici, si on va suivre Dieu, si on va donner notre vie à Dieu, si on va se soumettre au Créateur et accepter Jésus comme sauveur pour qu'est-ce qu'il a fait, ou ça va être trop tard. Noé a vécu le trop tard. Après, il dit que Nukwa a fusionné ensemble des pierres de 5 couleurs qui ont réparé l'azur du ciel et coupé les pieds de la tortue pour remettre les 4 piliers. Bon, il y a toutes les raisons pour ça, mais encore là, on voit le Nukwa. Je vais juste parler des Miao dans deux diapos, puis on va conclure avec Shang-Ti. Je t'avais dit que j'expliquerais, on verra Shang-Ti, le pictogramme pour Shang-Ti. Il y a 10 millions de Miao, c'est des Chinois dans une section, c'est un peuple chinois qui s'appelle Miao. Et chaque funérailles, chaque mariage, ils récitent leurs origines et ils parlent aussi du déluge. Ici, je vais parler des origines, puis après le déluge. Il dit ceci. « Sur la terre, Dieu créa l'homme de la poussière, de l'homme qu'il créa, une femme il forma. Le patriarche poussière engendra Seté, Seté engendra un fils Lussu, et Lussu eut Goulot qui engendra Lama. Le patriarche Lama engendra l'homme Noah. » Faut comprendre, là, c'est des Chinois, ils n'ont aucun rapport à la Bible, ils ne sont pas chrétiens ni juifs. Ça date de bien avant que Moïse a écrit la Genèse. Son épouse fut la matrone Garbaline. Ça, c'est intéressant pour ceux qui étudient les langues. Ça, c'est la femme de Noé. Quand il dit Noah, le Wa, c'est sa femme. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Leur fils était Lohan, Loshen, Jahu. Les mêmes fils, Sham, Sem et Japhet. Ainsi, la terre se remplit de tribus et de familles. La création fut partagée par des clans et des tribus. Et là, il parle du déluge. Ainsi, il plut à torrent 40 jours. Les eaux submergèrent les montagnes et les chaînes, le déluge s'accrut. Tes gens étaient dégoûtés, impuissants et ruinés, mais le patriarche Noah fut juste et la matrone Garbaline droite. Ils construisirent un bateau très large, toute leur famille monta à bord, la famille traversa tout le déluge en sécurité. Les animaux avec lui étaient femelles et mâles. Quand le temps fut accompli, Dieu commanda les eaux. Le jour arriva, les eaux du déluge s'éloignèrent. Puis Noah libéra une colombe de son refuge. Il envoya un oiseau au loin qui rapporta des nouvelles. Le déluge s'abaissa vers les lacs et les océans. Vous savez, il n'y a rien qui paraît hasard dans la Bible. Quand Jésus s'est fait baptiser par Jean le Baptiste, le Saint-Esprit est venu en manifester en comme quoi? La colombe était revenue à l'arche. Donc, on revient à notre moralement exemplaire. On se souvient, c'est une trinité avec une personne. OK. On ajoute à cela deux autres caractères, arbre et combustible. Donc du bois, un arbre qui fait le feu, qui fait le combustible pour un feu. On prend ces trois caractères-là et qu'est-ce qu'on a? On a Shang-Ti, ou Dieu suprême. Donc ils sont en train de dire dans leur pictogramme que le Tout-Puissant, Shang-Ti, qu'ils adorent, que l'empereur fait ce sacrifice annuel chaque année où il raconte comment il a créé le début, il est comme le potier, il se met dans la poussière, dans sa grâce, la gloire, etc. Bon, il dessine comme ceci son nom. Quelqu'un de moralement exemplaire, sans péché, qui est superposé sur un arbre, qui fait le feu qui fait le combustible pour un feu, pour un sacrifice. Qui est Shang-Ti? Shang-Ti, c'est Jésus. Quelqu'un qui est venu moralement parfait, il n'a jamais péché, il a été posé sur un arbre et il est devenu le sacrifice, l'agneau de Dieu. Ils savent, 2000 ans avant Jésus, ils savent l'histoire qui va arriver. Je crois que c'est pour ça que les mages venaient de l'Orient, mais je vais vous montrer d'autres raisons pourquoi. Il y a une prophétie, dans le temps de Mencius a fait une prophétie. C'est dans le temps le même contemporain de Daniel, le prophète Daniel. Donc lui, il dit ceci. Il parle de quand, mais vous allez voir qu'est-ce qu'il a dit. Il dit de Yao et Chon jusqu'à Tang, il passait 500 années et plus. Donc on commence à peu près 2250 avant Jésus-Christ et on avance 500 ans. Après ça, il dit de Tang au roi Yun, il passa 500 années et plus. On est à 1129 avant Jésus-Christ. Du roi Yun à Confucius, il passa 500 années et plus. Parfait. Et là, on est rendu à Mencius. Vous vous souvenez, le Dao fut perdu après Mencius. Okay? Et Mencius dit ceci. Le roi, ils attendent un roi. Le roi devait arriver en 500 ans et plus. Il ne dit pas qu'il va arriver au cours de 500 ans, excusez-moi. Le roi devait arriver au cours de 500 ans. Il ne dit pas qu'il va arriver à 500 ans. Donc, ceux qui étudiaient le Dao, le vrai Dao, savaient que Mencius avait prophétisé que le roi, il viendrait en 500 ans à partir de Mencius. Et là, ils sont rendus, il reste juste 20 ans. Ils attendent pour quelque chose. Confucius a dit ceci concernant ce roi. Si vraiment un roi arrivait, il lui faudrait quand même 30 ans pour que son amour soit révélé. Wow! À quel âge Jésus a commencé son ministère? 30 ans. Dans Mencius, il dit ceci. Dans le Shuqing. Nous avons attendu pour notre prince. Quand notre prince viendra, nous allons être sauvés des punitions pour lesquelles nous souffrons. Il savait qu'il allait venir. Il savait à peu près quand il allait venir. Il ne savait pas où il allait venir. Ils ont été plus fidèles à Shang-Ti que les Israélites, mais ils n'étaient pas le peuple choisi. Romains 2, 15 à 16 dit ceci. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Dieu a écrit sur le monde l'œuvre de sa loi dans nos cœurs. La conscience, qu'ils aient entendu de lui ou non, la conscience témoigne et leur pensée s'accuse ou se défend tour à tour. Ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Les Chinois ont eu et ont une révélation très, très ancienne de qui est Dieu. Et la raison, je crois qu'il y a un grand réveil en Chine, c'est parce que ceux qui connaissent les cinq, les Jing, ceux qui connaissent les cinq classiques, toutes les questions sont là, ils n'ont pas les réponses. On arrive avec une Bible, ça répond une chose après l'autre, une chose après l'autre. C'est Jésus, ça c'est le prince qu'on attendait, ça c'est le roi. Moi je pense que ça c'est vraiment cool. Ça c'est merveilleux qu'est-ce que Dieu a fait ici, c'est merveilleux. On va finir, j'ai un dernier, j'essaie d'avancer. Ça c'est des livres, on pourra pouvoir parler après. Peut-être les musiciens pourront monter pendant que je fais ça, parce qu'on va faire une dernière chanson. Dernier cantique, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de choses à penser sur ce que je viens de parler, beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui est à saisir de qu'est-ce que je viens de dire ce matin, à part du fait que les Chinois ont une connaissance claire de la Genèse. Donc, c'est une preuve extra-biblique que la Genèse est vraiment la révélation divine de Dieu. Tout le monde a la même histoire. Mais quel était le point de leur pictogramme? Le summum de leur pictogramme, c'est Shang-Ti. Et ils disent que nous, on a besoin de ce prince. Sinon, nous souffrons. Sinon, nous sommes en jugement avec Shang-Ti. Il y en a beaucoup ici qui le savent, mais je vais juste expliquer une chose, peut-être ceux qui sont nouveaux, qui n'ont pas su ça. Il y a beaucoup de gens qui se demandent la question concernant la souffrance qui est dans le monde. C'est simple, relativement simple. C'est que Dieu est 100% juste et 100% amour. On est fait à son image, mais on n'est pas exactement comme lui. Nous, si on est 100% juste, tout le monde est en prison. Si on est 100% amour, personne n'est en prison. Comprenez? Dieu, il y a les deux. Il est 100% juste. Donc, quand il y a eu la trahison d'Adam et Ève, comme dans les pictogrammes chinois et dans la Genèse, la justice de Dieu, il doit répondre à ça. On doit répondre. Par défaut, on reçoit qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait. On est dans une situation de péché. On est perdu. D'ailleurs, le monde le démontre qu'on est perdu. D'ailleurs, c'est clair qu'on est perdu. Ça, c'est la justice de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que le prince, celui qui est allé sur la croix, a dit, non, moi, je vais venir à leur place sans péché. Je ne mérite pas, mais je prends sur moi, Jésus a dit, je prends sur moi les péchés de tout ce qu'on a pu commettre du début jusqu'à la fin des temps. La seule chose qui reste à faire, c'est d'accepter qu'il l'a fait. De mettre son orgueil de côté et dire, « OK, moi j'ai vraiment besoin que le Créateur, que ce Jésus, prend ma place. » Parce que moi, devant toutes les autres religions, c'est quoi la différence entre la chrétienté et judéo-chrétienté et toutes les autres religions? C'est simple. Toutes les autres religions, tu essaies d'arriver à la perfection par tes propres forces. La chrétienté accepte, on ne peut pas. On peut faire toutes les bonnes œuvres au monde et on peut quand même aller à l'enfer. Parce que nos bonnes œuvres ne mesureront jamais à la sainteté de celui qui est du Créateur. Donc, jusqu'à temps qu'on est couvert par l'agneau, tu viens beau, personne qui est couvert de l'agneau, justifiez-moi avec les lances, moi! Ça veut dire que si je suis le seul sur terre, il aura fallu que je sacrifie Jésus. Parce que c'est juste lui qui pouvait prendre ma place. On est autant coupable que le Romain qui a mis les croix ou que les pharisiens qui ont fait crucifier Jésus. On est pareil. On a tous besoin d'accepter qu'est-ce que Jésus a dit qu'il a fait pour nous. Sans ça, on est sous le jugement de Dieu. Vous ne voulez pas être en dehors du bateau. Tu te souviens de Noé, sa femme? Et je dis ça en tout sérieux, là. C'est pas pour vous forcer ou manipuler ou rien. C'est ça que la Bible dit. Peut-être on va prier un instant avant de chanter. Je sens que le Seigneur parle à quelques-uns ici. Je sais que c'est chaud ici. On sort. Peut-être c'est plus chaud à cause que moi je suis dans les lumières, mais. Juste prions quelques instants, parce que c'est vraiment entre vous et Dieu. Je veux donner quiconque ici qui n'aura pas fait ce choix-là ou qui dit, moi, j'ai vraiment besoin de mettre ma vie en règle devant Dieu. Je veux pas être sous le jugement de Dieu, mais je veux être sous l'amour de Jésus et je veux que Jésus prenne tout sur lui. Si tu dis, moi, j'ai besoin de faire cette prière-là, la Bible dit que si tu crois dans ce que Jésus a fait pour toi, tu auras la vie éternelle. Tu ne seras plus sous le jugement de Dieu. Il n'y aura plus de condamnation en Jésus-Christ. Ce que je vais faire, je ne vais même pas demander. Normalement, des fois, je demande des gens lèvent leurs mains, tout ça. Moi, je veux juste que, si vous avez à cœur de prier cette prière, juste répète à voix haute qu'est-ce que je vais prier et vous allez assurer, si vous le faites d'un cœur sincère, vous allez assurer vous aurez la vie éternelle. C'est ça que la Bible dit. Elle est vraie du début jusqu'à la fin. Si vous dites dans votre cœur, moi j'ai besoin de soumettre ma vie à Jésus, de ne pas être sous la justice de Dieu. Mais juste prions ensemble et répète qu'est-ce que je vais dire. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Tout ce qui est bien et tout ce qui est mal, je mets à tes pieds. J'accepte par la foi ce que tu as fait à la croix. Que tu es mort à ma place. Tu as subi mes punitions. Et je demande pardon pour toutes les fautes que j'ai commises, inconsciemment ou consciemment. Je demande pardon, Jésus. Et j'accepte le fait que tu es allé à la croix pour moi et que tu me pardonnes. Et parce que je crois aujourd'hui, j'ai la vie éternelle. Je ne suis plus sous le jugement de Dieu, mais je reçois ton amour pour moi. Et je demande, Jésus, que tu te montres à moi chaque jour de plus en plus, que je puisse voir avec tes yeux, entendre avec tes oreilles, parler tes paroles et vivre cet vrai amour inconditionnel qui est juste disponible de toi. Merci Jésus.